Allez, maman nous a permis de rentrer. On est de retour avec Frédéric, qui était parti au Vietnam, qui va y repartir bientôt. Mais avant d'évoquer l'avenir, on va se concentrer sur le présent. Si tu veux bien continuer nos poursuivre ton récit sur le Vietnam, on évoquait en off que tous ces voyages ont été l'occasion pour toi aussi d'écrire, de partager un petit peu le récit de ce voyage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce temps que tu as passé à écrire et puis comment la cuisine t'a accompagné aussi sur les routes?
Et bien en fait, j'avais décidé dès le départ, avant de partir, de prendre un calepin pour pouvoir écrire tous les moments partagés avec mon ami et tout ce qu'on a pu traverser. Tous les soirs, j'écrivais régulièrement un peu ce que j'avais fait dans la journée. Donc après on a fait le Laos, on est retourné en Thaïlande pour faire la Thaïlande du Nord. Et puis après on allait un mois en Inde. Et puis pendant ce mois en Inde, j'ai rencontré un monsieur qui était français et qui était bénévole pour une association pour héberger des personnes en Inde. Ce monsieur m'a dit si tu veux écrire un livre, tu l'écris comme tu penses. Le problème, c'est que écrire comme je pense, des fois, il y a des mots qui ne se disent pas dans un livre, mais ça m'a donné l'envie d'écrire en fait sur mes voyages. Et d'écrire sur d'autres choses comme la nature qui m'inspire beaucoup, quoi.
Cette même nature qui est omniprésente dans le pays voironnais, ton arrivée ici, elle se situe dans quel contexte et comment tu découvres finalement le lac, quand j'évoque le lac, c'est le lac de Paladru, et tout cet environnement du pays voironnais, comment ça se passe ton arrivée ici?
Quand je suis arrivé ici, c'est pareil, j'ai toujours. Ça a toujours été un moyen de voyager en fait. Je suis parti de la Charente maritime. Je voulais voyager en caravane, je voulais vivre l'expérience. Tous les mois, je m'arrêtais faire du woofing, donc travailler 4-5 heures dans une ferme biologique pour apprendre des nouvelles choses. J'ai appris à faire du fromage, j'ai appris à faire de la bière, j'ai appris à faire de la confiture, des fruits confits, tout ça. Une très belle expérience. Et puis, à un certain moment, je n'ai plus eu envie de continuer à faire du woofing, puisque certains, en fait, abusent du temps gratuit des personnes. Et donc, je suis arrivé en Auvergne, et en Auvergne, j'en ai eu assez de faire du woofing, et j'avais un prochain woofing à faire du côté du lac d'Aiguebelette, côté de la Bridoire, je crois. En attendant, je me suis posté dans un camping, j'ai découvert la région, et en fait, je m'y suis tout de suite plu. Genre peut-être 2, 3 jours après, j'ai postulé pour un travail et puis j'ai été pris. Et du coup, je suis resté dans cette région. Je me suis rapproché du lac, de la nature bien sûr, qui m'a toujours inspiré. J'y suis toujours resté. Il y a la nature, il y a les montagnes, il y a tout ce que j'aime en fait. J'ai toujours été du côté de la mer, mais j'avais envie de découvrir aussi du côté de la montagne et puis ça me plaît aussi.
Alors, ce qu'il y a de commun peut-être entre les océans, les mers, les montagnes, c'est des grandes étendues où la nature nous rappelle notre petitesse, le fait qu'on fait partie intégrante de cet environnement. Comment, entre ces multiples voyages en Asie, aux États-Unis ou en France, tu continues de t'étonner, t'émerveiller, de découvrir des choses, de recomposer avec ton environnement? et à ne pas te lasser du voyage. Sûrement, c'est comme cette question, parce qu'on a toujours l'idée que les voyages, c'est ailleurs, c'est loin, mais il peut aussi y avoir un moment, lorsqu'on prend le goût de voyager, d'avoir ce besoin de se poser, de se stabiliser. Je crois qu'on est fait un petit peu des deux, finalement. On a besoin de stabilité, d'instabilité, d'ancrage, d'évasion, de rêve. Comment tu arrives à le faire cohabiter, toi? Est-ce que c'est la cuisine qui t'aide peut-être à tirer ce fil?
Exactement, en fait, moi je me suis toujours tourné vers la cuisine. La cuisine est aussi un très bon moyen de voyager. Après, moi j'ai toujours été aussi très créatif et c'est beaucoup la nature qui m'a inspiré aussi. Donc c'est pour ça que je suis resté dans cet environnement. Et puis bien sûr, la cuisine amène toujours cette envie de créer de nouvelles choses. Donc le cerveau est toujours en réflexion par rapport à de nouvelles choses. Et c'est ce qui est toujours, enfin, c'est ce qui aide à avancer en fait. Si on ne réfléchit pas à de nouvelles choses, à de nouvelles idées, on n'avance pas en fait. Donc, puis ben, la nature inspire. La nature m'inspire beaucoup. Donc, pour ça, j'ai écrit un autre livre par rapport à un arbre que beaucoup connaissent qui s'appelle Jingo Biloba. Et j'ai fait l'histoire du Jingo qui est un personnage qui tourne autour de la nature. Donc, en fait, des paysages qui ressemblent à la nature, ma propre imagination, quoi. Donc, en fait, à chaque fois quand je vois des arbres, des choses, je pense à. J'imagine, en fait, une histoire, des choses comme comme des petites bêtes qui peuvent très bien habiter dans cette branche qui tend dans l'eau, des histoires, toujours des petites histoires à raconter, et puis c'est ce qui me fait toujours avancer en fait.
Et puis, comme enfin, paraphraser à travers ce que tu nous dis, un poète argentin, Pablo Neruda, qui nous dit que plus que finalement le point de départ ou le point d'arrivée en chemin, ce qui importe, c'est le chemin en lui-même. Et en chemin, ce qui nous marque, c'est aussi les rencontres. Tu évoques la nature. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as rencontrées qui t'ont accompagné dans ce cheminement intérieur, qui t'ont fait découvrir des choses?
Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. J'ai beaucoup parlé par rapport à mes idées, peut-être un peu farfelues pour certains, peut-être créatives pour d'autres, hein, mais j'ai eu la chance. Enfin, je n'ai pas eu la chance de croiser quelqu'un qui pouvait m'aider. J'aimerais bien justement illustrer ces idées. Mais j'ai croisé personne qui pouvait m'orienter vers ça.
T'évoquais donc cet ami qui t'a accompagné sur les routes. Est-ce que aussi dans l'éveil que tu as pour la nature, la cuisine, le passage par la formation, par des cuisines, a permis aussi d'ouvrir des portes ou pas?
D'ouvrir des portes vers.
Sur des nouvelles recettes, sur des nouvelles façons de concevoir ta relation à la cuisine?
Bah, des recettes, en fait, c'est tout le temps une recherche, en fait, de nouvelles saveurs qui aident toujours à aller plus loin, en fait. Et puis, de voyager, hein, c'est parce qu'en fait, des fois, on voyage par la cuisine, mais des fois, on a envie de voyager réellement dans d'autres pays et d'en apprendre toujours.
Alors justement, comment on arrive à faire cohabiter ce désir quasiment continu et renouvellement permanent de l'envie de voyager avec de l'ancrage? Où est-ce que tu arrives à trouver tes valises, à te poser? C'est peut-être très intime comme question, mais c'est une question qui peut se poser lorsqu'on prend goût à voyager. C'est comment reprendre pied avec ses racines, avec sa relation à la terre. Tu as parlé du woofing, c'était peut-être un moyen. Il y a tout un détour aussi par les potagers, le plaisir aussi à cultiver son jardin.
À cultiver son jardin, ça a toujours été pour moi en fait Avoir son propre jardin, c'est vraiment quelque chose que pour moi qui est vraiment très intéressante et importante. Tout le monde devrait apprendre, même les enfants, apprendre à cultiver. Ça devrait être même appris à l'école. Mais j'ai beaucoup travaillé dans mon jardin en Charente sur de la permaculture pour apprendre à faire de la permaculture, apprendre à cultiver. Sans produits, sans rien, apprendre à quelles graines semer tous les mois. Et en fait, ça devient vite une addiction en fait, de vouloir créer son propre jardin et d'avoir une bonne récolte. C'est toujours magique aussi hein, quand on a ses propres légumes qui apparaissent, ses courges, ses courgettes. On est comme des enfants en fait dans un jardin quand on fait pousser ses légumes.
Et on se reconnecte peut-être avec les saisons aussi, les changements, les aléas du temps.
Oui, bah on se projette toujours dans le temps en fait. S'il y a toujours des nouvelles choses à faire, quand c'est l'hiver, bah il y a peut-être des tailles sur des fruitiers. Donc on apprend aussi. On apprend à tailler un pommier, on apprend peut-être à installer une petite vigne dans son jardin. Et puis ça, c'est après l'hiver, on peut la tailler. Il y a tellement de choses à apprendre quand on cultive son jardin. Donc on cultive son jardin, mais on se cultive soi-même aussi.
Alors le soi-même, j'étais justement là où je voulais t'emmener, ça tombe bien. Là aussi, cet aller-retour du voyage, il invite à se reconnecter au plus profond de soi. Comment on arrive encore à trouver de l'humain, du lien avec l'humain et la nature lorsqu'on est connecté à soi? Est-ce qu'il n'y a pas pour le moment la difficulté à se reconnecter aux autres, à se relier aux autres?
Quand on voyage, quand on cultive son jardin, déjà. Bah justement, en fait, on a plus envie d'aller vers l'autre. Par exemple, quand on fait son jardin, son potager, on a plus cette envie de partage, en fait. Quand on cultive des légumes, on a plus envie de partager avec les autres. Et donc, bah, ça crée du lien, hein. On a envie de partager, bah, son jardin avec les autres. Et c'est ça qui est magique aussi, hein, le voyage aussi, ça donne envie de parler en fait avec les personnes qui sont sur place, d'en apprendre sur eux. Faut pas spécialement juste faire visiter les tours opérateurs, visiter les musées, faut aller parler avec les gens, quoi.
Le voyage, le légume en lui-même à travers le jardin nous transforme. Le légume lui-même se transforme lorsqu'on le cuisine. Comment tu appréhendes aussi cette transformation? Et, tu vois, je crois que tu as déjà partiellement répondu à cette question. Dans la recette, finalement, elle n'est pas là pour me dire et fixer les grandes étapes. Ton objectif à toi, c'est en permanence créer, retrouver des saveurs différentes, nouvelles. Dans cet exercice fastidieux qui pourrait occuper une vie, comment tu vas rechercher ces informations? Où est-ce que tu puises, si ce n'est pas dans les recettes, du coup, c'est à travers les rencontres?
Il y a toujours des conseils de personnes qui te donnent des idées sur des recettes que toi tu n'auras pas forcément pensé tant que tu réfléchis à tellement de choses qu'en fait il y a des choses qui sont tellement plus simples à cuisiner et ces personnes te donnent des idées juste un ingrédient des fois à rajouter dans une recette qui peut faire toute la différence en fait. Et c'est toujours. On en revient toujours en fait. La cuisine, c'est du partage. Donc les gens partagent leurs recettes, leurs idées. Et c'est comme ça que tout le monde devrait faire en fait. Partager au lieu de se centrer sur soi-même.
Alors, le travail de ce que tu évoques là, moi, il me renvoie directement à une actualité qui est celle aussi de femmes, des hommes qui entretiennent le pays qu'on a longtemps appelé, qu'on n'appelle plus ainsi, les paysans, qui est aussi tout un travail autour de la terre. et des paysages qui façonnent nos cultures, nos paysages. Les paysages, si on les décompose au passage, c'est le pays et les âges. Il y a cette expression aussi fameuse qui me vient à l'esprit lorsque j'évoque ça avec vous, c'est les remèdes de grand-mère, les recettes de grand-mère. Ça tisse le fil que tu es en train de tirer là, progressivement autour de la création, le lien qui est fait avec la cuisine. Et c'est vrai que c'est un bagage formidable, la cuisine, parce que quatre coins du monde, on peut se lier d'amitié et d'affection avec des gens, rien qu'en évoquant la cuisine et se retrouver à table. Il y a en Afrique du Nord cette chose qui tend un petit peu à s'entremêler entre tradition, évolution, arabicisation, orientalisation, occidentalisation, qui était l'idée très longtemps qu'on partage le couscous et le tagine dans le même plat. Et puis progressivement, chacun mange un petit peu dans son assiette. Est-ce que ces voyages aussi t'ont amené à passer du temps autour d'une table et à t'étonner, te surprendre de rencontres qui façonnent à la fois les territoires? Quand on évoque l'Asie, j'imagine des rizières, j'imagine des installations aussi en coteaux avec des plateaux qui sont aménagés. Est-ce que tu as constaté ça aussi? Et tu as pu rencontrer des anciens qui ont eu cette volonté ou pas de transmettre? Et à ton tour, est-ce que tu as envie de transmettre aussi?
J'ai rencontré ça souvent, mon tout premier voyage au Vietnam, justement, où là c'était un trek où je dormais chez les habitants, je mangeais chez les habitants. Et il y a toujours, en fait, quand une personne a le même âge que soi, donc je sais pas comment il a deviné mon âge, mais je devais avoir peut-être 24 ans quand j'y suis allé. Et la personne en face avait 24 ans. Et en fait, quand on a le même âge normalement avec la personne, on doit boire un petit verre d'alcool de riz.
Saké? Non.
Saké, je crois que c'est plus japonais. Mais il y a tellement d'alcool. Il y a l'alcool de riz, l'alcool de manioc et l'alcool de maïs qui est le plus fort. Hein, voilà, on boit. Il y a toujours cette amitié qui peut se créer juste en mangeant ou en passant une soirée dans une habitation chez des gens. En fait, c'est la meilleure façon de rencontrer des gens, d'aller chez eux ou leur proposer. Un étranger, c'est toujours soi-disant bienveillant.
Eh bien, on va poursuivre le voyage. Cette fois, on va partir de la Terre pour rejoindre la Lune avec Bloody Holmoon, toujours avec Jason West, et on poursuit l'échange avec toi.